premier étage. Je te réunis en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Et si quelqu'un a le numéro de portable à côté de moi, je suis preneuse. Vous l'avez pas. Bon, on va le dire un peu, on le dira tout à l'heure. Donc autour de moi, il y a quand même Greg.
Salut.
Il y a Arthur.
Salut.
Il y a Arthur number one qui est en train de m'énerver en disant parle d'à côté du métro.
Oui. Salut.
Et il y a Sylvia qui vous salue. Comme vous pouvez vous apercevoir, nous avons été abandonnés par Alex et Serge. C'est pas très grave, mais nous allons faire avec.
C'est des choses qui arrivent.
Et on va lire deux communiqués des CRA dans le déroulé de l'émission. Alors est-ce que ça sera fait dans l'ordre ou pas? On ne sait pas. Donc il y aura deux communiqués des centres de rétention, il y aura un témoignage suite à l'appel qu'on a eu la semaine dernière sur Idir, tragiquement décédé dans des conditions super étranges, où nous soupçonnons fortement l'administration pénitentiaire coupable de ce drame. Nous allons ensuite avoir un appel, certainement ou pas, de cette femme qui nous a aussi appelé la semaine dernière, qui est en centre de rétention. Et après, on a plein de petites brèves qui sont dramatiques, surtout au niveau des parloirs. Voilà. On va passer au premier communiqué.
C'est ça. Donc là, je vais vous lire le premier communiqué, donc qui est fait sous forme d'interview. Je vais essayer de bien faire comprendre comment ça se passe. Donc, c'est un témoignage du CRA de Lyon. Nous, on est ici comme des chiens. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Comme des chiens. La vie des chiens, elle est plus belle que notre vie. Pourquoi il y a tant de gens racistes en France ? C'est la première fois que j'ai vu des gens racistes comme eux. Je te jure, oui, la France, ça ne se fait pas de faire ça. C'est pire que l'Italie ? En Italie, jamais j'ai vu des personnes comme des personnes en France. Jamais. C'est pas toute la police, mais ce groupe-là de la police, police aux frontières, t'as vu ceux qui ont donné un coup de poing à l'autre mec, ça se fait pas. Ça se fait pas comme ça. On est comme des chiens. Nous aussi, on a notre vie. Plein de choses à faire. Qu'est-ce qui s'est passé ce samedi matin ? J'avais rien fait. Ils sont rentrés et j'ai dit... Va fond couler la France, parce qu'il y a beaucoup de racistes. Moi, j'ai mes papiers. Mon père m'a envoyé les photocopies du permis de séjour, de la carte d'identité, beaucoup de choses. Moi, maintenant, je ne vais pas à l'école. Ça fait déjà depuis 20 jours que je ne suis pas allé à l'école. Je suis ici en prison. Moi, normalement, je suis à l'école. Quand est-ce que tu es arrivé ici ? Ça fait 2 mois à peu près. J'ai fait Marseille-Paris, parce que j'ai mon cousin à Paris. Il n'y a pas de train pour Marseille. Du coup, j'ai pris le train Paris-Lyon. Je suis arrivé à Paris. Et je me suis fait arrêter par la police. Et c'est là qu'ils m'ont envoyé dedans. Voilà. Je te dis, même des chiens, ils ne mangent pas cette bouffe-là. Et tu es en contact avec ta famille ? Oui, avec mon père. Juste mon père. Eux, ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer en Tunisie. Mais moi, j'ai pas de famille en Tunisie. Pourquoi me renvoyer en Tunisie ? Je vais dormir dans la rue. Il n'y a rien à faire en Tunisie. J'ai pas de famille là-bas. Je veux juste retourner en Italie avec mon père. Pourquoi ces gens, ils font ça avec nous ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Je te jure, nous, on n'a rien fait. Et la police, elle nous parle en nous insultant. Les choses qu'ils nous ont les choses qu'on nous font faire, ça va pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas de faire ça. Je te jure. Viens voir dedans, c'est comme des chiens. Excuse-moi. Je te parle de moi. Je suis le plus jeune ici. J'ai 18 ans. Pourquoi ils m'envoient en prison alors ? Pourquoi ? Pourquoi je dois passer du temps maintenant dans ma vie en prison ? Les autres... de Forum Réfugiés, ils travaillent. Ici, moi, j'ai donné mes documents à Forum et quand je suis allé voir le juge, il n'a jamais parlé de ma vie en Italie, de mon permis de séjour, de mon père. Je ne sais pas pourquoi, je te jure. Mais moi, j'ai juste peur. Je suis le plus jeune ici. Il y a beaucoup de gens. Je suis avec des gens qui sont plus vieux que mon père, 40 ans, 50 ans. Les flics, ils sont rentrés. Ils m'ont pris en photo et ils m'ont dit « Tu pleures comme une pute. » Mais pourquoi ça ? Des racistes, racistes. Il y a beaucoup de racistes ici en France. Ce groupe-là, j'ai jamais vu de police qui travaille comme ça. La police en Europe, elle fait comme ça avec les gens. Ça se fait pas. Moi, je suis jeune. Eux, ils sont venus à 5-7 et ils ont dit « Regarde-lui comme il pleure ». Ils sont rentrés vers moi. J'étais tout seul dans la chambre. Ils m'ont donné un coup de poing et ils m'ont mis les mains derrière. Ils m'ont dit « Mets-toi à terre. Ça se fait. » Est-ce qu'on est des chiens ? Est-ce que je suis en train de crier ? Il y a eu des témoins ? Dans la chambre, j'étais seul. Et quand la police allait rentrer, tous les autres mecs, ils sont sortis des autres chambres et ils ont regardé ce que la police m'a fait. Tous les autres ont vu ce que la police m'a fait. Et t'as entendu parler du rassemblement devant les CRA vendredi dernier ? Vous avez pas de problème après ? Non, non, nous aussi on a crié. Liberté, liberté. Et la police, elle était juste en train de rigoler. Elle rigolait ? Oui, elle rigolait, comme ça. Je te demande un truc. Est-ce qu'il y a une sélection pour sortir les gens d'ici ? Non, il n'y a pas vraiment de règle. Ils peuvent décider de te laisser dedans, de te laisser sortir ou de t'expulser en Tunisie. Ça dépend. Le maximum, c'est 90 jours. 90 jours dedans, c'est comme 90 ans, je te jure. C'est de la merde. Tu comprends. Quand je dis c'est la merde en France, quand je sors d'ici et que je retourne en Italie, jamais, jamais, je reviens en France. Je retourne plus jamais en France. En Italie, c'est toute ma vie. Même quand tu te fais arrêter en Italie par la police, elle t'arrête avec plus de respect. Si t'as pas des papiers, ils t'envoient une convocation. Et si tu les as, c'est bon, tu pars. Il n'y a rien. La police en France, c'est pas toute la police. Ceux dedans, dans les CRA, et la police à la gare, parce que moi, à la gare, j'avais mon billet de train. J'étais en règle. Après, la police, elle m'a dit que j'avais pas de papiers. Elle m'a emmené en... Qu'est-ce que toi ? J'ai dit à la police, s'il vous plaît, je peux appeler mon père pour qu'il m'envoie des photos de mes papiers, mais ils m'ont dit non. Ils m'ont même pas donné mon téléphone. Tout de suite, quand ils m'ont arrêté au commissariat, avant de venir en prison, la police m'a bloqué, in questura, à Lyon. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une garde à vue. Ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas appeler. Après, j'ai passé 25 ou 27 heures en questura, en garde à vue. Après, je suis arrivé ici en prison. Mon téléphone, il est dans le CRA, mais on ne me le donne pas. Ils l'ont pris avant, en garde à vue. Moi, j'avais oublié mon portefeuille en Italie. Mon père m'avait envoyé les photos des papiers. Du coup, quand je suis arrivé à Marseille, je me suis rendu compte. J'ai appelé mon père, qui a vu que j'avais oublié mon portefeuille, mon argent, tout. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé de l'argent, pour que j'achète un billet de train. C'est de la merde en France. Quand je sors, je reviens plus jamais. Voilà, bon, on n'a peut-être pas saisi question-réponse, mais...
Moi je pense que c'était clair.
Témoignage de Lyon.
Ouais, juste pour dire un truc par rapport au moment où il parle de la manif qu'il y a eu à l'extérieur, en fait, c'est dans le cadre de la marche des solidarités dont on a parlé dans cette émission il y a 2 semaines, et où un peu partout là en France, il y a des marches de sans-papiers qui sont organisées, il y a eu pas mal de parloirs sauvages devant des centres de rétention, et donc on va revenir dessus plus vers la fin de l'émission, un peu revenir sur tous les parloirs qu'il y a eu... devant des centres de rétention un peu partout en France. Donc là, c'est ce qu'il disait à un moment quand il dit qu'il y a une manif devant le CRA de Lyon. Voilà, ça faisait référence à ça.
Oui, puis malheureusement, je crois que dans ce discours, on entend encore bien, de manière alarmante, le racisme d'État, l'humiliation quotidienne des flics dans les centres de rétention et la détresse, quoi. La détresse qui est toujours là, quoi. Donc ça fait qu'empirer et c'est inadmissible, quoi. C'est pas possible.
Il faut que ça change. Malheureusement, c'est très compliqué. Et en tout cas, gros soutien à eux. Et Greg, parle plus au micro. Parce que c'est à toi de lire le deuxième communiqué.
Autant pour moi. Alors, pour ce deuxième communiqué, on va vous expliquer du coup que dans le CRA de Vincennes, donc la prison pour sans-papiers de Vincennes, il y a eu un nouveau cas détecté de Covid. Et donc là, on a un témoignage de personnes enfermées en quarantaine. Je vais vous représenter vite fait le contexte. Donc à Vincennes, depuis septembre, ce centre de rétention avait été réorganisé. Le bâtiment 2A servait de bâtiment d'arrivée, où chaque personne se voyait proposer un test PCR. Donc le test PCR, c'est celui dans le nez, là. En fonction des résultats, ils étaient ensuite transférés soit dans le bâtiment 1 pour les personnes qui étaient négatives, soit dans le bâtiment 2, le bâtiment des personnes testées positives. Et depuis quelques jours, il n'y avait plus de personnes porteuses du virus dans le CRA. Donc le bâtiment 2A a naturellement réouvert ses cellules. Ce serait bête qu'il reste vide. Pour devenir un nouveau bâtiment d'arrivée, au même titre que le bâtiment 2A. Le dernier revirement donc, date d'il y a 4 jours, où un prisonnier a été testé positif au bâtiment 2A. Ce dernier a été transféré dans un hôtel Formule 1. Tandis que les autres ont été mis en quarantaine, ce qui dans cette situation spécifique signifie aucune nouvelle arrivée et visite interdite. Premier témoignage donc là va souligner la mise en danger des personnes arrêtées, de la rue jusqu'au centre de rétention, rien n'est fait pour les protéger du risque de contamination au virus. Il semble également que, pour faciliter les procédures, les personnes arrêtées sont encouragées à ne pas prendre d'avocat pour soi-disant accélérer leur remise en liberté. Sans défense adéquate, donc le copain s'est retrouvé au centre de rétention de Vincennes 24 heures plus tard. Donc voilà le témoignage. J'étais dans le 10e arrondissement. J'étais avec un pote à moi. On prenait le métro. On prenait des billets. J'ai parlé et il m'a pas compris. J'ai enlevé le masque pour lui parler. Et il y avait un monsieur à côté qui m'a dit « Monsieur, mettez le masque ». Je lui ai dit « Mais vous êtes qui ?» Il m'a répondu que c'était la police. Alors il m'a demandé la carte. Je lui ai dit que j'en avais pas, que je circulais sans papier, sans titre de séjour. Donc il m'a ensuite emmené avec lui dans le minibus. On est resté 20 à 30 minutes dans la bagnole, mais comme on était plusieurs, on n'arrivait pas à respirer. J'ai dit « Monsieur, allumez l'aspirateur, car ça nous permet de prendre l'air. » Il a dit qu'on allait partir bientôt, mais on est resté quand même une demi-heure. Et il y avait un gars qui était malade à l'intérieur. Il a des problèmes de tension. Il a dû enlever ses vêtements parce qu'il n'était pas bien. Et finalement, on est parti. On a tourné par mal. Il semblait chercher un commissariat vide. Finalement, on arrive dans le commissariat de Bercy. Il nous a enchaînés. Ils nous ont soi-disant expliqué nos droits, avocats, interprètes, etc. Il nous a dit que si on prenait un avocat, ça allait allonger notre temps dans le commissariat. C'est une manipulation. Comme les gens ne savent pas leurs droits. Moi aussi, je ne pouvais pas rester là-bas. Je voulais sortir tout de suite. Alors, on n'a pas pris d'avocat. Après, ils nous ont mis dans une cellule de 5 mètres carrés environ. On était presque 8 ou 9. J'ai dit au policier, « Monsieur, j'ai le Covid. » Après, il a répété à son collègue, « Lui, il a le Covid. » Après, il s'est retourné, il est parti. Ils nous ont appelés ensuite, un par un, pour savoir ce qu'on faisait en France, si on avait un travail régulier. Il m'a demandé si je connaissais mes droits, je lui ai dit non. Il m'a expliqué que j'allais être obligé de quitter la France. Je lui ai dit que je ne voulais pas quitter la France, que j'étais étudiant, que je faisais un doctorat en philosophie. J'ai un travail régulier. Je suis propriétaire, j'ai une maison. Ma mère, mon père et ma sœur, depuis des années, habitent en France. Je ne peux pas partir. Il a dit qu'il allait transférer mon dossier à la préfecture. À 20h, certains ont été libérés. On est resté 3 ou 4 personnes dans la même cellule. La cellule était vraiment très sale. On était à l'intérieur, sans masque. Personne n'en avait. La nourriture, je l'ai ouverte, mais je ne l'ai pas touchée. C'était dégueulasse. C'était de la nourriture pour les chiens. Le lit et la couette étaient hyper sales. Le lendemain, ils m'ont amené dans le centre. Ils m'ont dit que j'allais être renvoyé, mais que je pouvais contester au tribunal administratif. Quand je suis arrivé dans le centre, ils ne m'ont pas fait de test. Je pensais qu'ils allaient me confiner dans une chambre, mais pas du tout. Ils m'ont donné la couette, la brosse à dents, et je me suis installé dans une chambre. J'ai vu que tout le monde circulait partout dans le centre. Certains portent le masque, d'autres pas. Alors je suis parti à l'accueil, j'ai demandé si j'allais faire le test ce soir. Ils m'ont dit « probablement ». Vers 20h, ils m'ont appelé. Je suis parti aller voir l'infirmière, je lui ai demandé si j'allais faire le test. On m'a dit « ce soir, on ne peut pas le faire, car on a un cas de Covid ici ». J'ai répondu « mais comment ça ?» En fait, comment ça se fait qu'on ne fait pas de test avant de rentrer dans le centre ? En fait, là, ça sert à rien. Imaginez que j'ai le Covid. Et donc, je contamine logiquement tout le monde. Qui prend cette responsabilité ? La personne qui avait le Covid a dormi dans le centre pendant plusieurs nuits. Elle m'a dit qu'ils allaient tous nous tester dans une semaine pour voir si on l'avait attrapé. Celui qui a le Covid, ils l'ont emmené dans un hôtel. Il y a un autre mec qui est passé au tribunal et ils l'ont fait sortir sans l'avoir testé. Mais il a été en contact avec l'autre. Imaginez, il l'a attrapé, il va contaminer tout le monde. Mais ils s'en foutent. Pourquoi ils l'ont laissé sortir ? Mais c'est plus leur responsabilité, car il est déjà parti. La nourriture ? Alors, on se régale tous les jours. Le matin, on nous donne un beurre avec une confiture, avec un café. Le midi, personne ne finit le repas. J'ai parlé avec une personne de l'accueil hier. Je peux pas manger. Depuis le début, j'ai perdu 4 kilos. Si vous voulez faire le régime, vous venez ici et vous perdez 10 kilos. Vraiment, c'est pas mangeable le repas. Je le jette tous les jours. J'achète toujours le chocolat. C'est qui le responsable du centre ? J'ai demandé à la dame. Je vais parler avec lui. Je vais l'inviter à venir manger avec nous le soir. Vos dirigeants, vos élus, ils parlent toujours à la télé des droits de l'homme, de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité. Dans un État, il y a un autre État. Il y a un autre règlement. Ils ferment tous les yeux. En fait, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne voient pas. Et la démocratie, le meilleur pays qui protège les droits de l'homme. C'est juste des paroles, à mon avis. Donc, ils sont 13 à avoir passé de quelques jours à quelques heures avec la personne porteuse du virus et laissée dans l'incertitude de ce qui se passera ensuite. Il semble qu'au moins un homme parmi eux fasse partie des personnes à risque. Donc, le témoignage reprend. Je suis là depuis mardi passé. On est rentré avec un homme qui était positif au corona. Comme on était les deux jours avec lui, on était exposé au corona et maintenant on est bloqué ici. Sans la famille, sans les enfants, ni rien. Dans 7 jours, ils vont nous faire un nouveau test. Si quelqu'un est positif, alors on ne sait pas ce qui va se passer après. On était avec le monsieur toute la journée, on a fumé avec le même briquet, on a touché au même téléphone, on a parlé avec le même téléphone. Je sais pas, on est traités comme des animaux ici vraiment. On est comme inexistants. Normalement, tu fais un test, et ensuite tu mélanges les gens. Parmi nous, il y a une personne qui fait de l'hypertension. Vous imaginez si elle est contaminée ? Donc, voilà l'intégralité du témoignage. Et donc voilà, on peut constater que entre les discours et la réalité de ce qui se passe dans ces prisons, y a quand même un écart qui est scandaleux, quoi. Et la santé des gens sur place et leur vie, ça n'a pas d'importance.
Oui. Et puis on nous parle de gestes barrières, on nous bassine avec ça tous les jours à la télé, on ferme les bars, on nous met en stress toute la journée pour qu'ils enferment dans 5 mètres carrés 8 mecs ensemble. C'est quand même... Et pour avoir vécu dans 9 mètres carrés, 5 mètres carrés, c'est très petit. Hein. Ça veut dire qu'en France, si t'es logé dans un appartement comme ça, t'es dans l'illégalité, ton bailleur. Donc c'est quand même très grave. Et le fait qu'ils disent aussi... Surtout, ne jamais écouter les conseils des flics à l'intérieur, c'est quand même la première chose à faire. S'ils vous disent de ne pas prendre d'avocat, la première chose qu'il faut faire, c'est d'en prendre deux. Hein. C'est la règle. Voilà, c'est super important parce que justement, nous, en étant en contact régulièrement avec des gens qui sont en centre de rétention, la plupart des gens qui ont des avocats, ils sortent plus que ceux qui n'en ont pas. Voilà, bizarrement.
Après, c'est la technique classique en garde à vue aussi, qui est de mettre la pression en disant plus vite si tu prends un avocat, tu perds du temps, mais on a déjà des éléments, t'inquiète pas, tu sortiras plus vite, t'as pas besoin de l'avocat. Ouais. Grosso modo, c'est de la dissuasion. Et effectivement, ça empêche l'accès aux droits, ça empêche l'accès à la défense. Et derrière, il va y avoir des pressions pour avoir des procès-verbaux à charge et qui vont allumer encore plus les personnes gardées à vue. Donc c'est clair qu'il ne faut jamais faire ça.
Non, puis quand on est dans ces situations-là, il faut mettre toutes les chances de son côté. Alors effectivement, ça prend plus de temps sur ça, oui, parce qu'il faut que l'avocat se libère, il faut que, voilà, plein de choses, mais quoi qu'il arrive, que ça prenne plus de temps, que vous soyez là pour 4 heures, 5 heures de plus, et que vous ayez un droit derrière, je pense que ça vaut le coup, quoi. Donc lâchez rien et pour eux ça les arrange parce que la procédure elle va beaucoup plus vite, vous êtes plus vite renvoyé au pays et eux ils sont plus vite tranquilles à boire leur bibine, les pieds croisés sur le bureau et voilà, donc ne leur faites pas confiance à ces gens là, c'est la première chose à faire.
Ouais, juste pour dire, on va revenir sur ça avec un appel d'ici, un peu plus tard dans l'émission, sur quelqu'un qui est enfermé justement en centre de rétention en ce moment et qui va nous parler à la fois du fait que, on le sait bien, parce qu'on en parle souvent dans cette émission, mais les conditions d'hygiène dans les centres de rétention sont de toute façon complètement, enfin c'est impossible de se protéger du virus là-bas, il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'eau, enfin c'est vraiment dégueulasse. Et en plus ces histoires de tests, en fait on en a parlé, mais ils ont utilisé plein de choses, ils ont trié à un moment entre des gens qui étaient positifs, des gens où ils ne savaient pas trop. Il y a une gestion des prisonniers en centre de rétention qui... où on les voit, à chaque fois on voit vraiment qu'ils font de l'expérimentation, ils passent les gens d'un bâtiment à l'autre, donc là peut-être on en reparlera plus tard, mais en ce moment leur truc c'est d'essayer de faire du centre de rétention de plaisir un centre spécial pour les gens qui sont justement testés positifs et ramener tous les gens d'Île-de-France dans ce centre là, bref, et donc c'était juste pour dire, on va revenir sur tout ça avec un appel de l'intérieur un peu plus tard.
Et maintenant on va mettre un enregistrement, enfin un témoignage. D'abord, je vais réitérer les faits, parce que c'est une affaire qui me touche et qui nous touche tous à l'envolée. Et comme on ne veut plus que ça se reproduise, on a décidé de faire les choses dans les règles et passer ce témoignage poignant. Et donc voilà, le 9 septembre, Idir est mort, il y a deux témoignages. le 9 septembre, Idir est mort au mitard à la prison de Korba. Il avait 22 ans. Il était libérable 2 semaines après sa mort. Jusqu'ici, on a eu du mal à avoir de, on a eu du mal à obtenir des témoignages parce que les gens ont peur de parler à l'intérieur. Mais nous en avons bien évidemment, et on a décidé de vous en faire écouter un qui nous fait 2 témoignages. C'est la même personne. Donc il y a 2 enregistrements. Et après, je reprends la parole. Alors vous allez entendre des blancs. Ces blancs, c'est parce qu'il y a un nom qui a été donné, surtout un nom de famille. Je vous en parle plus après.
Salam alaikum à tous et à toutes, là je suis en direct de Korba, là. On est le 6 octobre 2020. Et voilà, là, ce qui s'est passé pour le petit Idir, là, Rahmou, ça s'est passé au mitard. Il était témoin, lui, il a voulu en parler à tout le monde. Tout le monde essaye de le cacher. Et là, il est au mitard actuellement, il a pris plusieurs peines pour une brigadière là-bas qui s'occupe du mitard. En fait, ils étaient là-bas, ils faisaient un peu de bordel. Et voilà, ils crient à la fenêtre, ils tapent un peu dans les portes, tout ça. Ils sont venus, ils en ont pris déjà. Ils lui ont coupé l'eau, l'électricité, aux deux. Et à bout d'un moment, bah voilà, quand on a soif, on est enfermé quelque part, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, bah ils étaient obligés de boire dans les toilettes. Et ils ont insulté tout ça et tout. Ils sont rentrés dans la cellule, ils l'ont défoncé. Ils ont fait leur truc de genou, là, et il n'arrivait plus à respirer. Et juste après, bah, le petit jeune, là, Idir, là, il l'appelait pour lui demander l'heure de la prière, de la salate. Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un de suicidaire, c'est sûr, à 100%. Et juste après, bah, il les a entendus aller dans leur cellote et ils l'ont frappé, sauf qu'il n'a plus rien entendu après. Il l'a appelé et il ne répondait plus, quoi. Ils l'ont tué. Et là, ils sont en train de cacher les choses à tout le monde. Et personne ne dit rien ici. Là, quand il était sorti du mitard, il a demandé à tout le monde, il s'est renseigné d'où il était. Tout le monde s'en bat les couilles ici à Korba. Tant qu'ils ont leur shit, tant qu'ils ont leur téléphone, ils s'en bat les couilles des frères, des gens. Bref, donc voilà, t'es là, il faut faire passer le message. Et Inch'Allah, que comme nous on est punis, bah eux aussi, t'es ils payent, hein, ces fils de pute.
Ouais, et maintenant là je vais mettre le 2e enregistrement du coup.
Pour vous expliquer. Salam alaikum. Voilà, c'était pour en revenir pour l'histoire d'Idir, pour vous expliquer l'histoire. Et ben en fait, il a fini au mitard, il s'est embrouillé avec les RSS et la brigadière. Et à la fin, ils lui ont fait une clé de bras, ils l'ont frappé, tout ça, ils lui ont mis le genou sur le cou. Et il a pas supporter, Alahmou, il est mort. Et ils l'ont pendu à la fin pour cacher la vérité. Et voilà, là, personne ne dit rien, tout le monde s'en bat le zub, tout le monde s'en bat les couilles. C'est un truc de malade à Korba. On est le 6-10-2020.
Donc voilà, c'est un témoignage d'un prisonnier, comme vous l'avez pu comprendre, qui est incarcéré à Korba. Pour la protection de... Alors en fait, je vous explique, il parle de 2 prisonniers, il parle de Idir, et, qui était au mitard, au quartier disciplinaire, et à côté, il y avait un voisin de cellule. Et aujourd'hui, pour sa protection, parce qu'on a coupé son nom et son prénom sur l'enregistrement, mais on va quand même citer son prénom pour sa protection, parce qu'aujourd'hui, il est en danger. Il a pris 90 jours de mitard. C'est compliqué. Dis quelque chose, s'il te plaît.
Alors déjà, 90 jours, c'est la folie. Parce que déjà, on sait qu'à l'isolement, au bout d'une dizaine de jours, ça commence à attaquer sérieusement le cerveau. Il y a des études qui ont montré que c'était déjà inhumain. Donc déjà, on est dans un truc qui est complètement hallucinant.
Il faut savoir que ce jeune homme s'appelle Yacine. Qu'effectivement, il a pris 90 jours, donc 3 fois 30 jours, qu'il n'est pas légal en France de laisser quelqu'un autant de temps au mitard. Donc, ils sont obligés de le sortir, de lui faire faire 30 jours, de le sortir, de lui refaire faire 30 jours, de le sortir au moins une journée. chose qui a été faite, et c'est comme ça qu'il a pu parler à cette personne qui témoigne aujourd'hui. Aujourd'hui, il est seul au mitard. Ce témoignage a tourné un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et son nom et son prénom a été donné dans ces vidéos qui ont fuité et qui n'auraient pas dû sortir. Le souci, c'est qu'on a peur pour Yacine aujourd'hui. Qu'il se passe alors qu'il est dépression, qu'il ait un transfert disciplinaire ou un transfert dans l'urgence, qu'il se fasse tabasser comme il a été une fois. Donc voilà, c'est des Yacine au mitard à Corba, il n'y en a pas mille. Donc voilà, c'était important d'en parler. Excusez-moi, je suis submergée par l'émotion parce que j'ai des proches au téléphone un peu régulièrement. Je suis une ancienne prisonnière. Là, ça me touche. J'imagine dans quelles conditions ce Yacine il est enfermé aujourd'hui, en sachant que cette personne avec qui il parlait et qui peut-être connaissait pas forcément le visage, parce qu'ils sont ils ont une heure de promenade et qu'ils sont séparés et voilà quoi. C'est un témoin auditif, un peu comme à Cesse en 2018 avec la mort de Jawad au mitard, où il y avait six personnes qui témoignaient, qui étaient avec lui et qui ont témoigné, et qu'après, ça avait fait un énorme boom médiatique. J'espère qu'il y aura aussi un énorme boom médiatique pour y dire que la France s'intéressera un petit peu à cet homme et à cette famille dans la détresse. Je voulais revenir aussi sur le témoignage où il expliquait qu'ils avaient coupé pendant 3 jours l'eau et l'électricité, alors qu'on ne me dise pas que ce n'est pas vrai, puisque c'est arrivé très régulièrement, encore une fois, à la santé, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient coupé l'eau, ou pendant les blocages de surveillants, pendant ces 3 semaines où ils réclamaient 3,50 € en plus sur leur salaire avec un pistolet de défendre à l'intérieur, hein, alors que là, en l'occurrence, la victime, c'est pas eux. Donc voilà, il a dû, ses dernières heures, c'est ça, c'est boire de l'eau des toilettes et faire sa prière et les ébullitions avec l'eau crade, de la pisse et de la merde. Voilà comment un surveillant, comment une administration pénitentiaire, comment une structure de l'État peut réagir face à un homme seul dans un quartier, isolé de tous, un peu comme il se passe dans ces centres de rétention où il n'y a plus de loi dans cette structure d'État. Voilà.
Oui, et puis enfin, on comprend que tu sois autant énervé, Sylvia, dans le sens où, enfin, vu ce que là le gars il vient de décrire, enfin, c'est exactement comme l'histoire du mitard à Seyss où il y avait une équipe en fait, qui était hyper violente et dont les gens avaient vraiment peur. Ils appelaient ça le truc de la mort, je ne sais plus, l'escouadron de la mort. Bah, là, c'est pareil, quand ce qu'il décrit, évidemment, on flippe pour ce gars qui est de nouveau au mitard avec sûrement les mêmes matons qui vont passer à n'importe quel moment et qui, à n'importe quel moment, vont vouloir se venger. On voit bien qu'ils sont quand même en roue libre. On l'a déjà dit plein de fois dans cette émission et dans le journal. Enfin, les mitards, c'est... Enfin, déjà que la prison, c'est une zone de non-droit où les matons, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent torturer les gens, mais le mitard, c'est vraiment là où ils peuvent se lâcher complètement à l'abri de tous les regards et de tous les témoignages. Comme tu disais, là, le témoignage, il sort juste parce qu'au bout de 30 jours, ils sont obligés de lui faire un aller-retour. Mais sinon, ils l'auraient bien laissé là les 90 jours. Hein.
Non, puis c'est pas la première fois que ça arrive à Corba. On se rappelle de Sofiane Mostefaoui, qui est mort en 2013 dans ce même quartier, dans des conditions aussi étranges. Et il est. Alors, je ne peux pas expliquer. Il y a ce jeune homme qui explique. Il y a ce jeune homme dans son témoignage qui explique qu'ils l'ont pendu totalement comme il s'est passé à Cesse, où les témoins disent qu'ils ont entendu les matons calculer ça, le poids et la taille de Jawad. Et donc le problème, c'est que l'autopsie ne donne pas la même signification que ça et conclut par une mort complètement stupide. Voilà, je ne donnerai rien et pas d'autres éléments sur cette affaire ce soir. Voilà, donc il y a une marche qui est organisée pour y dire dimanche. Donc ce serait bien qu'il ait un maximum de soutien, un maximum de monde. Des précautions vont être prises, les gestes barrières aussi, des masques seront distribués sur place. Bien évidemment pour mettre personne à la faute parce que vous pensez bien des gens, enfin les flics se sont empressés de se mettre sur place pour la marche blanche de dimanche, voilà, bref. Donc, il y a eu un maximum de monde. Le point de départ, c'est au marché de Gros Lion à Corba, à 69 rue Marcel Mérieux, 69 960 Corba. Donc, c'est devant la prison. Ce sera à 14h. Et c'est dimanche. Voilà, le point d'arrivée, c'est à la maison d'arrêt de. En fait, c'est le marché. Alors, je recommence, on refait. Le point de départ, c'est au marché Gros Lion, Corba, 69. Rue Marcel Mérieux, 69 660 Corba. Et le point d'arrivée, c'est devant la maison d'arrêt de Lyon-Corba. Voilà. Cette marche se fera dans le calme et dans le respect de tous. Nous ne souhaitons aucun débordement. Merci à tous et à toutes. Voilà ce que demandent les proches.
Ouais, et puis les proches, dans leur appel, précisent bien aussi qu'ils font aussi cette marche pour tous les prisonniers et prisonnières enfin, qui sont morts en prison depuis le début de l'année. Enfin, pour dire que voilà, c'est un parmi beaucoup trop de morts suspectes, enfin, comme on dit, enfin, de morts tuées par la prison. Quoi.
Si vous avez des questions ou des renseignements, n'hésitez pas à rajouter le snap femme de détenu. Elle vous en dira plus et elle se fera un plaisir de vous répondre, bien évidemment. Voilà. Donc, il y a une association aussi qui est créée. Si j'arrive à... Parce que, bien évidemment, j'ai perdu la connexion, donc je ne peux pas vous la donner. On la marquera sur... Dis-moi.
Moi, je voulais rappeler que la famille et les proches ont appelé la semaine dernière. Donc, si vous voulez plus de détails sur cette histoire, écoutez l'émission de la semaine dernière qui est podcastée et qui est disponible sur le site de l'envolée.net. Et où d'ailleurs, la famille rappelait également que Idir avait raisonné et donné de la force à un de ses co, ou en tout cas, je ne sais plus si c'était un de ses co ou quelqu'un qu'il avait rencontré ailleurs que dans sa cellule, mais en tout cas, il a raisonné parce que il était suicidaire et dans un mauvais passage, et donc il a repris pour lui dire qu'il fallait absolument qu'il fasse pas ça. Ce qui vient appuyer la thèse de la famille et aussi de deux témoignages qu'on a écoutés là, qui est qu'il paraît complètement impossible qu'Idir se soit suicidé. Après...
Puis, alors en fait, dans son témoignage aussi, il explique qu'il avait demandé l'heure de la prière à Yacine. Idir avait demandé l'heure de la prière. Alors, il faut savoir que dans la religion musulmane, le suicide, c'est un énorme péché. Se donner la mort alors que Dieu t'a donné la vie, voilà, moi je peux vous faire écourt de salat, hein, c'est pas le moment et c'est pas l'endroit, mais effectivement, si il allait faire ses ébullitions et prier, c'est qu'il était vraiment pas du tout dans cette
Dans cette perspective là qu'il s'accrochait encore à la vie et qu'il avait encore assez de force et d'espoir pour continuer, quoi.
Il faut savoir aussi que pour protéger Yacine, la maman de Idir, dans son deuil et dans sa souffrance, a été au commissariat faire voir cette vidéo en disant que s'il se passait quoi que ce soit sur ce jeune homme, vous savez d'où ça vient en fait. Et donc je tiens quand même à préciser que Yacine n'est pas suicidaire, qu'il est en parfaite forme morale, physique et psychique, que nous sommes le vendredi 9 octobre et que s'il lui arrive quoi que ce soit, l'administration pénitentiaire de Lyon-Corba sera l'entière responsable. Voilà.
Juste faire un dernier parallèle peut-être par rapport aux témoignages qui ont évoqué les techniques qui ont été utilisées par les matons. Et en fait, ils ont les mêmes techniques de port qu'à l'extérieur, que dénoncent notamment les familles de victimes de crimes policiers, qui sont les techniques d'immobilisation qu'elles appellent, que ces familles et ces collectifs appellent des techniques d'immobilisation mortelles, puisqu'elles apportent la mort souvent, qui sont la clé d'étranglement, le pliage ventral et la dernière m'échappe, mais il y en a trois.
Et donc là, bah, on a quand même entendu clairement qu'il s'agissait de ces techniques-là et que c'est des techniques barbares qui sont interdites dans la plupart des pays européens et qu'on tolère encore en France. Après, on nous a fait une sorte de coup de passe-passe il y a quelques semaines en disant quand... On a des ministres qui nous ont dit qu'il y a une des techniques qui allait être interdite, mais on sait très bien que tout ça c'est du vent et que les flics et les matons ont encore un permis de tuer et qu'il faut le dénoncer et qu'il faut se battre contre ça. Donc beaucoup de force à la famille qui fait un énorme travail et qui commence tout juste une lutte qui va être longue et fatigante, mais en tout cas on leur apporte tout notre soutien. Et soyez nombreux et nombreuses à les soutenir également et aller à cette marche.
On va passer un petit peu de musique.
J'entame une valse avec le bitume, par coutume, par habitude. Révolté par le réel, par les pensées, les attitudes. Enclin à la lassitude, j'ai préféré le combat. Faut se révéler, se répéter, référer les coups bas. Faut se réveiller avant que la seule issue soit sous les décombres. Les gorges au champ, le sol viendront annoncer le décompte. On se décompose petit à petit par la tête. Sors pas le costume de soirée car le temps n'est pas à la fête. C'est le prix, le poids de la paresse, non plutôt celui de l'égoïsme. Là-bas des enfants soldats, ici ce sont des choristes. Que Dieu vienne et puis me corrige. Perso, j'ai jamais croisé ni clé. Les croisades, les croisières, les croix celtiques, les croix de fer. Et je crois que c'est la tolérance qui nous attire vers le vide. Je vais mettre un pied devant l'autre, mais la télé me fait perdre le rythme. On ne veut pas de terre de riche, ici on prône le partage. Mais ça reste utopique quand des cailloux affrontent des calaches.
On danse sur les pavés, avant qu'ils se mettent à voler braver. Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser
de questions sans se poser.
Aux raisons qui nous livrent qu'on se comprend sans se causer.
C'est un appel aux indignés,
on peine à oublier
les résistants de tout temps,
ceux qui n'ont jamais plié.
On y est. Mais laissez la crimée, libérez vous criez, c'est le bal des insurgés.
Rentre dans la danse, je t'arrête de suite, on fait pas de pénitence, sans plus de conscience. En état de fuite face aux circonstances, on crache sur vos valeurs et lâche les casseurs. Sur leur système oppressif mené par des valeurs, je maudis tous leurs chiens en képi qui prennent les miens à partie. Je rêve de temps, je mène et je vois les poulets rôtir. Sans foi ni loi, on mène notre gars contre leur super jour. Leur crise insiste et toute leur stratégie qu'ils banalisent. Esprit vandale, ramène ton pochoir qu'on baisse. Le mieux à la rue nous appartient, aucune censure dans nos. Peinture, frère d'infortune entraîne en bande jusqu'au bleu azur. Récolte de propagande sur toute l'heure de venture. Révolte de quartier aux prolétaires immigrés. On jette le premier pavé embrasé par les préjugés. Bafoué tout à l'oreille clinique. Le système tout à l'oreille de brûler. Ce qu'ils s'aiment tous pareil. Bienvenue au bal des insurgés.
On danse sur les pavés avant qu'ils se mettent à voler braver.
Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser
de questions sans se poser.
Aux raisons qui nous livrent qu'on se comprend sans se causer.
C'est un appel aux indignés,
on peine à oublier
les résistants de tout temps,
ceux qui n'ont jamais plié.
On y est, 2015 sans mêler, laisser la Crimée. Libérez vous criez, c'est le bal des insurgés.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 ou 07 52 40 22 48, joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je répète, le 07 52 40 22 48.
Sur toutes les plateformes aussi.
Et oui.
Voilà les réseaux, voilà, Twitter, Snap, Facebook. La totale, on est à peu près à niveau.
Ouais. Et normalement, nous attendons un appel téléphonique de détenus au centre de rétention. Enfin, détenus, oui, c'est ça. Au centre de rétention.
Retenu, comme ils disent.
Oui, mais retenu, j'aime pas. Je préfère dire détenu, moi.
Ni l'un ni l'autre.
Ouais,
bah, oui.
eux retenus, ça les arrange, mais en vrai, c'est pas le mot. Ils ont kidnappé, moi, je dirais.
Les prisonnières, ils l'ont enfermée là-bas.
Et donc, elle nous a appelé la semaine dernière, elle était passée dans...
Ouais, dans les zones, les API, en fait, les zones d'attente pour les personnes qui doivent être expulsées à l'aéroport. En fait, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. C'est les gens sans papier qui se font arrêter à l'aéroport et qui peuvent se faire enfermer. Alors, je crois que c'est jusqu'à 20 jours ou un truc comme ça. Bon, c'est prolongé, hein, comme en CRA, à chaque fois on passe devant un juge qui dit « allez hop, on y repasse, on y retourne ». Et donc, souvent on passe par là, ils essaient de vous expulser en fait direct. C'est une espèce de grande espace de garde à vue dans l'aéroport. Et s'ils n'y arrivent pas, bah, comme là, bah, en fait, on finit en centre de rétention, voire parfois on fait un petit... Il y avait quelqu'un qui avait témoigné à Saint-Étienne il y a longtemps pour parler justement de... Elle avait fini en prison pour un refus d'embarquer justement quand ils avaient essayé de la réexpulser direct après son arrivée. Elle avait fait de la prison, puis elle avait fini au centre de rétention.
Comme vous avez pu entendre la sonnerie du téléphone retentir... Et donc normalement, on va la passer.
D'ici quelques secondes, ça va arriver.
On va rappeler quand même qu'elle avait appelé la semaine dernière, hein, et qu'elle a commencé à nous raconter un petit peu ce qu'elle a subi à son arrivée en France en avion.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Dis-nous, déjà, merci de ton appel. Est-ce que tu vas bien?
Oui, ça va un peu, malgré les stress et tout.
Tu voulais nous parler de choses précises aujourd'hui?
Ouais. Est-ce que je vis qu'il y a là deux jours, ça a commencé, c'était avant-hier. Et ça m'a un peu bouleversée, ça m'a rendue triste. Et donc, c'est pourquoi je voulais en partager avec certaines personnes aussi.
Bah, n'hésite
pas. On est défoulé un peu aussi.
Bah, n'hésite pas, vas-y, on t'écoute.
En fait, ici sur le CRA de filles, parce que nous sommes aussi avec des filles qui ne parlent pas français. Il y a les Albanaises et tout, nous vivons avec elles. Alors, il y a de cela deux jours, il y a une Albanaise qui est venue me voir. Comme elle ne parle pas français, elle parle anglais. Mais bien que moi, si je ne parle pas trop français, j'aime des trucs quand même. Elle est venue me dire qu'elle avait déjà ses règles et elle voulait avoir le bain génique. Elle me dit si je peux l'accompagner à la police pour aller demander des bandes géniques. Et là, je l'ai accompagnée. Arrivée là-bas, on a trouvé une dame. Je lui dis, ouais, la demoiselle, elle a ses règles, elle voulait avoir le bande génique. Et la police l'a remis juste deux bandes. Et elle a négocié, elle a dit, avec deux bandes, qu'est-ce que je vais faire avec? Et la police a grondé. La fille, elle a eu peur, on est rentré. Après, elle a utilisé, dans la journée, elle a utilisé le des serviettes, ça n'a pas pu suffire dans ses besoins. Elle est venue me voir, elle m'a demandé si j'en avais aussi. Moi non plus, j'en avais pas. Du coup, elle a pris son habit, elle a pris sa blouse, elle a déchiré, elle a utilisé ça comme serviette. Sans se rendre compte qu'il y avait de problèmes sur ça, comme avec la femme, elle est trop, trop fragile, elle a attrapé des infections. Elle a commencé à avoir trop mal au niveau du bas-ventre et au niveau de la hanche. Elle pleurait tellement fort. Elle est venue me dire que je ne me sens pas bien, j'ai trop, trop, trop mal. Du coup, elle est tombée par terre. Elle a commencé à crier très fort. Et comme dans notre bâtiment, il y a un bouton là, quand vous appuyez, directement ça sonne chez la police. Moi, j'ai sonné et on a essayé d'appeler la police. La police nous a répondu que nous ne sommes pas là pour vos conneries, donc démerdez-vous là-bas. C'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Et du coup, la fille, elle a commencé à pleurer. Au départ, on croyait peut-être que non, ça va passer, c'est juste des douleurs, comme on n'avait pas aussi des antidouleurs, rien du tout. Elle pleurait, et plus le temps avançait, la fille, elle devenait pâle. Elle devenait pâle, et elle avait une forte fièvre. Je voyais aussi ses yeux commençait déjà à changer. Et tout le monde était paniqué. On ne savait plus quoi faire. Elle pleurait tellement, elle était par terre. Et elle a commencé à faire de... Je ne sais pas comment je peux appeler. Elle faisait comme ça.
Des convulsions.
Oui.
Des convulsions. Oui.
Et elle pleurait tellement fort. J'ai eu peur. Deux minutes après, il y a une amie qui était ici. C'est une Marocaine. On l'avait rapatriée il n'y a pas longtemps. Elle m'a appelée. J'étais tellement paniquée, je l'explique la situation. Elle me dit, attends d'abord, je t'envoie le numéro de pompier. C'est elle qui nous a envoyé le numéro des pompiers. On a essayé de contacter les pompiers et on leur avait dit non, dès que vous êtes là, il faut faire signe. Mais il ne faut pas dire aux flics que non, c'est nous qui vous en faire signe parce que ça risque de nous créer des problèmes. Effectivement, les pompiers sont arrivés. À la porte, d'abord, il y a eu un peu de discussion. Apparemment, le police ne voulait pas que les pompiers rentrent à l'intérieur pour prendre la retenue. Et à la fin du compte, quand même, le pompier, ils ont eu à les convaincre. Et jusqu'à ce que le pompier, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont pris la fille. Ils ont vérifié d'abord l'état de sa tension était déjà en baisse. Ils ont remarqué aussi qu'elle avait une sorte de fièvre. Donc, la fille était vraiment KO. Ils ont pris la fille, ils sont partis avec. Et puis, la police est venue là où nous étions. Déjà, la porte de ma chambre, toutes les deux portes de ma chambre sont déjà cassées. Donc, ça fait 3 jours que je dors. On dirait que je suis congelée, en fait. Donc, j'ai craint déjà, premièrement, nous ne mangeons pas bien. Et aussi, tu dors dans le froid. J'imagine la suite de ma santé avec la crise sanitaire. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Donc, j'ai l'impression que je vais aussi tomber malade. Et du coup, on est parti avec la fille. Et puis, le fils qui sont venus nous voir, il nous dit, ouais, les filles, c'est vous qui ont appelé les pompiers. On va voir. Directement, ils se sont approchés de moi et ils ont commencé à m'adresser en me disant, toi, tu parles français que les autres. C'est-à-dire, c'est toi qui es allé appeler le pompier. Je dis, moi, c'est pas moi qui ai appelé les pompiers, c'est la fille elle-même. C'est elle-même qui avait mal. Elle sait ce qu'elle sentait dans son corps. Moi, je suis pas dans son corps pour sentir ce qu'elle, elle présentait. C'est elle qui a appelé les pompiers. Et directement, une policière s'est approchée de moi. Elle a voulu me gifler. J'esquivais. Je suis rentrée dans ma chambre vers 4 heures. Ils sont venus dans ma chambre, comme la porte est déjà cassée, toutes les portes sont déjà cassées. Donc, il n'y a même pas moyen qu'elle frappe à la porte. Elle est rentrée, elle m'a réveillée à 4 heures. Et je sursautais sur le lit. Il y avait déjà l'un des... Donc, je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils voulaient me faire, en fait. Le policier était dehors, et la dame, elle est rentrée, elle m'a réveillée. Elle me dit, demain, je dois te présenter au greffe. Je dis, ben, pour quelle raison? Elle me dit, tu n'as aucun droit de me poser des questions. Demain, tu te présentes au greffe. Je lui demande, mais pourquoi? Elle dit, tu dois faire le test parce qu'il y a un vol prévu pour toi. Je lui dis, non, moi, je ne vais pas faire le test. Elle me dit, si tu oses de réfuser, tu vas avoir. De toute façon, tu verras ce qu'on va te faire. Les matins, effectivement, vers 10 heures comme ça, je vois le gendre de l'hôpital m'appeler. Oh non, mademoiselle, il faut passer à l'infirmerie. Je ne suis pas partie. J'ai essayé d'appeler les garçons, les amis qui sont dans l'autre cas. Les garçons, ils me disent, non, il ne faut pas y aller. Je ne suis pas allée non plus. Après quelques minutes comme ça, je vois qu'on a envoyé 4 policiers sont venus. Ils me disent, madame, vous êtes appelée à l'infirmerie. Comme j'ai refusé de partir, du coup, je vois l'un de ces policiers, il me dit, ok, vous serez poursuivi 3 ans de prison comme pas faire le test. Je n'ai pas répondu à ça, j'ai laissé. Et dans la nuit, maintenant, ils sont venus encore là où j'étais et ils ont commencé maintenant à me traumatiser. Il y a l'un qui était là, m'a bousculé. Elle me dit, comme tu ne veux pas, on va appeler les escortes. Cette fois-ci, tu seras escorté. Comme ça fait 2 fois déjà qu'ils ont refusé les vols, cette fois-ci, tu seras escorté parce que tu ne veux pas faire le test. Et je dis, mais non, c'est ma santé. Si je ne veux pas faire le test, je ne vais pas. C'est ma santé à moi. De toute façon, je ne suis pas en train de présenter des symptômes du COVID. Non, et tout. Ils ont commencé à parler n'importe quoi. Ils ont commencé à parler comme ils voulaient parler. Et c'était fini. Aujourd'hui, maintenant, quand on est allé manger, vers 18h, comme on mange à 18h, aujourd'hui, on a fini à 19h. Nous sommes rentrés à l'intérieur, comme ça, au réfectoire, comme on fait souvent des lignes, vous montrez des cartes et puis vous vous asseyez. Du coup, on voit la policière, elle s'élève, elle nous dit, avant de manger, vous devriez d'abord chanter. Chanter quoi encore? Elle nous dit, ouais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de leur chef et nous sommes obligés de chanter. Elle dit, est-ce que chanter pour votre chef, c'est obligatoire? Elle me dit, si tu chantes pas, tu manges pas. C'est-à-dire, on a commencé à prendre une personne par personne. Vous rentrez à l'intérieur, vous chantez 3 fois, Joyeux anniversaire, 3 fois, et puis vous partez manger. Si vous refusez, on ne vous donne pas à manger. Il y a la même fille-là qui était malade, celle qu'on avait amenée à l'hôpital. Elle ne se sentait pas bien. Elle n'a pas la force de chanter. Et les policiers l'ont exigé de chanter. La fille, elle dit, j'ai très mal, je ne sais pas chanter. Directement, on a refusé de la... Donc, jusqu'à présent, la fille, elle est dans la maison. Comme on a l'habitude de prendre le pain pour rentrer dans la chambre, ils ont remarqué que au cas où on prenait le pain, on va donner à la fille. Ils ont refusé de nous donner même le pain du soir. Vu que la nuit, elle est trop longue, parfois, la nourriture qu'on nous donne, on n'arrive pas à manger. C'est pas du tout bon. Alors, quand on te donne le pain, ça va t'aider. Durant la nuit, tu peux avoir faim, ça peut t'aider, tu peux manger, tu bois de l'eau, tu dors et la nuit passe. Mais comme notre ami, elle est malade, le pain là, on allait amener avec, on peut partager avec l'autre. Mais eux, ils disent non, il ne faut pas prendre de pain parce qu'ils savent déjà qu'au cas où on prenait le pain, on va donner à la fille. Depuis le matin, la fille, elle n'a pas mangé. Vous exigez aux gens de chanter pour votre anniversaire. Vous, vous êtes bien. Alors que nous, nous sommes stressés. La nuit, on ne dort pas. Hein? On ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Oui, on a fait des erreurs. Chaque personne fait des erreurs dans la vie. Et toute personne a droit à une deuxième chance. Mais quand vous nous maltraitez comme ça, et c'est comme ça qu'on a vu avec les gens, vraiment.
C'est clair que ce qu'ils sont en train de vous faire vivre, c'est immonde. Et pour compléter ce que tu dis, c'est par exemple en prison, quand tu arrives en détention et que tu es indigent, on te donne un pack indigent. Et effectivement, il n'y a pas de serviette hygiénique. Donc tu dois te débrouiller tout seul. C'est très compliqué d'entendre quelqu'un aussi triste et être impuissante. Je suis au bout de ma vie là. Le truc, c'est que tu vois, dans l'état où tu te mets, c'est comme ça qu'ils veulent que tu sois. Ils veulent que tu baisses tes bras et ta garde.
Oui.
Ne tombe pas dans leur panneau et ne tombe pas dans leur piège. Tu es plus forte et plus intelligente que eux. Leur anniversaire en carton ou le soir, ils rentrent chez eux et en vrai, ils sont mal dans leur peau et dans leur corps et dans leur âme. Ces gens-là, c'est des pourris. Nous et vous, on ne sera jamais comme eux et c'est là notre force. Tu sais, eux, ils sont seuls en vrai. C'est des gens seuls. Son anniversaire, elle va le passer enfermé toute sa vie. Toi, non. Ouais.
C'est ça, vous avez beaucoup de force et
vous
vous soutenez. Et puis ce que tu fais, c'est énorme. Tu nous racontes, tu témoignes et puis tu soutiens ceux avec qui tu es.
Oui. Je voulais féliciter aussi votre solidarité parce que
merci beaucoup, madame.
Parce que c'est très fort ce que vous faites. Ne pas donner à manger à quelqu'un parce qu'ils n'ont pas voulu chanter bon anniversaire alors qu'ils n'ont pas le cœur et la joie de le faire, d'une part, et de deux, vous avez tout simplement pas envie et on peut pas forcer les gens, mais c'est des malades en vrai ces gens-là, c'est eux,
oui, 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 oui.
Ils sont complètement déglingués.
Là, je sais même plus. Enfin...
Ils sont déglingués. Hein. Et tu sais, c'est qu'on me dise pas non plus que c'est pas vrai, puisque en banlieue, on le voit ça, ils prennent des mômes de 12 ans et leur demandent de chanter au clair de la lune, sinon ils sont pas libérés. C'est du mais ça. Ça m'a fait penser à ça, en fait, tu vois. Ouais. Ça m'a fait totalement penser à ça. Et ils sont qui de dire « Tu chantes pas, tu manges pas, t'es qui, toi ?»
Oui, non, ils se sentent plus, ils sont au-dessus de tout, et puis ils n'ont plus aucune limite. C'est... Ils détruisent.
C'est ça. Mais t'es toute seule, là ?
Je suis avec deux autres ici.
Et ça va, elles ont la force, elles ont quand même le moral.
Ouais, on essaie un peu d'être forte, on essaie. On n'a pas de choix. Seulement, la fille, elle m'inquiète beaucoup parce que on l'a donné des médicaments qu'elle doit prendre ce soir, mais elle n'a rien mangé. Mais là, comment elle va s'en sortir? Elle n'a rien mangé, elle est devenue pâle.
Alors,
déjà, chez moi ici, je n'ai même pas de pile. Déjà, je porte que des cinglés, deux habits que je suis venue avec depuis que je suis en France. Je suis venue qu'avec des habits parce que je fouillais chez moi avec la gueur qui était là-bas. Je fouillais. J'avais que deux habits et toutes les portes sont cassées. Ce qui fait qu'il fait très, très, très froid. Le drap qu'on trouvait, ça fait deux mois, bientôt deux mois et 15 jours que j'utilise les mêmes draps non lavés et c'est déjà troué. Donc, j'arrive même pas à me couvrir. Comment je vais continuer à vivre comme ça?
Alors, rappelle-moi, t'es bien à Ménil? Vous êtes bien à Ménil?
Oui.
Alors, tu sais ce que je vais faire quand on va raccrocher et qu'on aura terminé l'émission? Je vais téléphoner au centre de rétention. Je vais certes forcément avoir l'accueil. Et je vais dire que nous sommes au courant de ce qui se passe.
Oui.
Que nous sommes le vendredi 9 octobre, qu'il y a une femme malade qui doit prendre des médicaments, qui n'a pas mangé parce que c'est de pas par leur faute, et que s'il lui arrive quoi que ce soit et ils en seront l'entière responsable. Ça va les faire flipper un petit peu et ça va peut-être les faire réagir.
Oui.
Voilà. C'est ce que je peux donner ce soir, c'est ça. Je ne sais pas quoi faire hormis pour l'aider.
Merci beaucoup, madame.
Non, c'est normal. C'est normal. Tu veux nous dire autre chose ?
Non, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui.
Et on va demander, on va vous rappeler après, de toute façon.
D'accord.
À tout
merci
à l'heure.
Beaucoup.
Non, de rien. Merci. Surtout, soyez forte et veillez sur elle, parce que sans vous, c'est compliqué. Vous êtes sa force. Elles ont besoin de toi et toi, tu as besoin d'eux. Voilà, soutenez-vous. À tout à l'heure.
D'accord.
Merci.
On va mettre un petit peu de musique. Sinon, je vais chanter là, si tu te dépêches pas à ta musique, par contre.
T'attends nos bruits, coupe le beat là, s'il te plaît. Voilà. Non, attends, excuse-moi, remets-le. Ouais, mortel. Tu peux enlever la guitare là ? Voilà, juste la basse, bien grasse. Ah, j'aime bien. Coupe la caisse. Ça s'appelle le thème du Mozo Z. Là.
Ouais. J'suis dans un trip, la 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 la. Dis à fond, ouais, une fois rond, dit de faire un strip à ta nana. En string Bordeaux, comme l'ancienne équipe épique, tchanana. Quand ça va mal, pour le rap rap fort, avec des lyriques à corps technique. Oh, si j'étais sans mama, toi t'as mal à la tête quand j'tique la tech à Panama. J'suis tellement flow pour vivre, faut être plus costaud, couste, walana. Ça, ça va car c'est des morales. Mais que c'est auteur, compositeur, interprète. Et pourrait peut-être même faire partie d'une quoi chorale, gospel. La rue t'observe comme ces gosses qu'elle a vu se faire rouler plus vite qu'une grosse pelle. Par des boss mêlés dans des histoires qui se finissent au gros sel. Fais les 400 coups, mais sacha, tout le temps plus fait les que toi. Surtout dans les gros recels, télé, non réel, t'es là, dis que je mène à tout bout. Et même si j'ai des chiennes à gauche, à droite, sache que je l'aime à tout bout.
Je l'aime à tout bout. Pourquoi j'envoie ça, bébé?
Justice du monde, j'envoie ça.
Qu'est-ce qu'ils vont faire, les mecs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas de problème, je suis présent.
Ouais, yo! Plus sérieusement, personnellement, je souffre d'un trouble de la personnalité, ouais. Donc personne a idée. Et quand j'ai trop teasé, je deviens plus bête que Johnny Hallyday. Tu comptes réaliser. Et quand tu réalises, gros, y'a de quoi baliser. Analyser mon comportement, plus avisé. Et concernant la sentence, hé les gars, visez juste comme Joe, soyez pas trop sévère. Dans le dos, pire, retirez-moi ces verres. Colal, vous n'êtes pas que mes frères disent que la tisse collale. La peau de xysol, coléreux, scélérat de couleur qui décollale. La moindre injustice, car moi j'ai toujours été plus ou moins correct jusqu'ici. Sans chercher à jouer le justicier. Et jusqu'ici, on peut dire que ça a apporté ses fruits à merveille. Mais si Dieu veut, demain on aura le roro et dans leurs oreilles on fera.
Que ça se passe. A plus, plus.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 0149 dans 0140 05 06 10. Et pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Je voudrais revenir sur l'appel qu'on a eu avant. Voilà, voilà dans quel état d'esprit cette femme aujourd'hui, en ayant raccroché, dans quel état elle est et dans quel voilà, je suis un peu submergée par les émotions en vrai.
C'est une détresse quoi, c'est une souffrance horrible.
Bah le truc c'est que elles sont trois, et, dont une qui est gravement malade suite à cette affection qui n'a pas été soignée à temps. Parce qu'on lui a pas donné des protections hygiéniques comme il se doit. dans un pays des droits de l'homme.
La base de l'hygiène.
Voilà.
Pour une femme.
Et elle a eu une infection. Et il faut savoir que quand on a une infection aussi grave, quand on part en fièvre, c'est que dès l'instant que tu as une infection et que tu pars en fièvre, c'est que la fièvre, ça commence à... C'est le signal d'un gros problème. Elle est donc soignée forcément par des antibiotiques. Et le problème, c'est qu'ils ne lui ont pas donné à manger parce qu'elle n'a pas voulu chanter joyeux anniversaire à la capitaine. Et ça peut donner des grosses brûlures d'estomac. Donc tout ça se passe à Ménil. C'est pas pour vous faire une émission sensationnelle, loin de là. On s'en serait vraiment passé. On aurait préféré vous raconter qu'il y a des voitures qui ont brûlé au centre pénitentiaire de je sais plus où, tu vois.
Plein voilà, d'évasion, voilà. Plein de liberté.
J'aurais préféré vous raconter ça, réellement. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne et il me semble que c'est quelqu'un que nous connaissons bien, qui s'appelle Alex, et Alex va nous causer. Salut mec, ton qui n'est pas venu aujourd'hui.
Salut à toutes. Ouais.
Salut Alex. Ouais,
désolé. Du coup, moi aussi, je voulais envoyer plein de force à la copine. On continuera de donner de ses nouvelles. De toute façon, et je trouve que c'était un peu dans le fil de l'émission quand on parlait de là des morts au mitard et de ces moments où tous ces gens-là qui détiennent l'autorité, ils partent totalement en roue libre et ils se permettent de torturer des gens qui sont en fait déjà torturés parce qu'ils sont enfermés. Et voilà, et donc on continuera de donner de ces nouvelles. On mettra les numéros s'il y a des gens qui veulent appeler.
C'est ce que j'allais dire. Hein. Putain, tu lis dans mes pensées, toi.
Ouais, on donnera les numéros là à la fin de l'émission en direct et après on mettra les numéros sur le site pour ceux qui veulent appeler pour rappeler aux keufs en fait qui sont obligés de soigner les gens et que c'est pas eux les médecins et qu'ils ont rien à dire quoi. Et que d'ailleurs quand les pompiers interviennent dans un CRA, les keufs ils ont pas à savoir qui a appelé les pompiers d'ailleurs à aucun moment quoi. Voilà. Et moi en fait je voulais donner des nouvelles un peu plus positives. Je voulais parler un peu de ce qui se passe devant les centres de rétention. En début d'émission, Arthur il a vite fait parler après la lecture d'un témoignage d'un rassemblement à Lyon devant le centre de rétention. Donc en gros depuis fin mai, donc depuis après le confinement, il y a un gros mouvement de sans-papiers qui s'est relancé autour de la marche des solidarités. Donc c'est des grosses manifs qui ont eu lieu un peu partout le 31 mai, malgré les interdictions de la préfecture, notamment à Paris, et où les collectifs de sans-papiers, les sans-papiers qui sont mobilisés, ils ont réussi à totalement déborder le dispositif et à maintenir la manif, sachant que c'était la première grosse manif juste après le confinement, avec toute la pression que ça mettait sur les questions sanitaires, blabla, tout ça, quoi. Les keufs, ils ont voulu réprimer cette manif, un truc totalement dingue pour une manif de sans-papiers, quoi. En fait, ils ont juste calqué le dispositif qui ramène à toutes les manifs habituellement, c'est-à-dire drones, hélicoptères, lacrymo en masse, beaucoup de charges, etc. Et par contre, cette manif, elle a donné beaucoup de patates dehors. Et je voulais juste rappeler que s'il y a eu ce mouvement, c'est pour trois revendications principales, qui sont les papiers pour tous et toutes, ce qui veut dire la fermeture des centres de rétention immédiatement, et des conditions de logement pour toutes et tous en France, quoi. Parce que ça va ensemble, quoi, le tout. Et du coup, depuis le 20 juin, il y a eu une deuxième grosse date de mobilisation et il y a un appel à ce qu'il y ait une marche nationale qui converge à Paris. Donc depuis presque un mois maintenant, là, ça fait depuis le 19 septembre, il y a des collectifs qui se bougent un peu partout en France avec l'idée d'arriver le plus nombreuses possible à Paris, d'être passé dans un maximum de villes et surtout d'être passé devant un maximum de prisons pour sans-papiers. Et du coup, il se passe un truc qui ne s'est pas passé, je pense, depuis assez longtemps. Enfin, bon, après, moi, je ne suis pas... Ouais, je connais pas tout. Pardon. Mais du coup, il y a eu une dizaine de rassemblements devant des centres de rétention là depuis un mois, avec beaucoup de collectifs de sans-papiers qui étaient à l'organisation, pas mal de liens qui étaient faits à l'occasion avec les prisonniers et prisonnières qui ont pu manifester dans certains centres de rétention. On en parlait au début de l'émission en lisant le témoignage là du prisonnier de Lyon. Et du coup, je vais faire vite fait la liste là de là où il y a eu les parloirs sauvages, parce qu'on pense que c'est important de visibiliser ça, quoi, à la fois pour les prisonniers, prisonnières dedans, et pour les sans-papiers, les gens qui sont bougés dehors, quoi.
Non, mais te presse pas, prends ton temps, te casse pas la tête, hein, t'as vu.
Oui, et puis c'est de toute façon c'est historique et c'est aussi un rappel pour montrer que c'est possible et qu'il faut continuer à le faire en masse, en fait.
Exactement. Ouais, et c'est aussi pour dire qu'il y en a d'autres qui arrivent, quoi. Du coup, ça a commencé le 19 septembre. On a pas mal parlé de Marseille début septembre parce qu'il y avait eu déjà pas mal de parloirs sauvages devant le centre de rétention de Marseille parce qu'il y avait des mouvements à l'intérieur. Et donc, c'est reparti le 19 septembre avec une marche qui partait de la préfecture et qui allait vers le CRA. Le 22 septembre, c'était à Nîmes. Pareil, on en a parlé parce que cet été, il y a eu des grosses mobilisations à l'intérieur parce qu'ils ont fermé les parloirs et que il y a eu une grosse répression, enfin que la préfecture s'est servie de la situation sanitaire pour réprimer encore plus les prisonniers à l'intérieur. Mais on va peut-être vite fait le rappeler quand on parlera un peu de comment ça se passe en ce moment à la santé à Fresnes. Ouais. Et du coup, il y a eu aussi manif à Lyon, au CRA de Lyon. Juste pour rappel, le CRA de Lyon, c'est comme celui du Ménilamlo, c'est-à-dire il est à côté d'un aéroport, il est très loin de la ville, ça coûte assez rush d'y aller. Et là, il y avait une centaine de personnes devant, un collectif de sans-papiers aussi à l'appel, et des prisonniers donc qui ont pu manifester ensemble. Le lendemain, c'était à Toulouse, à Lille, donc pareil devant à côté de l'aéroport, et à Rennes, donc dans trois villes en même temps. Ce week-end, c'est au CRA de Wassel et de Metz. On a beaucoup parlé du centre de rétention de Wassel parce que il y a des équipes de keufs qui torturent beaucoup de monde là-bas et notamment au Mitard. Et ça se passe juste à côté de l'association présente dans le CRA. On en a beaucoup parlé des histoires à la fois de viol, de torture, etc. Et du coup, ça, c'est dans les émissions, par exemple, de janvier, février de l'année dernière et de 2018. Il y a ce week-end parce que du coup, toutes ces marches, elles ont pour objectif de converger à Paris. Ce week-end, pour aller faire une grande manifestation nationale, et l'idée c'est d'essayer d'aller devant l'Élysée. Et donc vendredi à 16h30, il y a un rendez-vous qui est appelé devant le centre de rétention de Vincennes, dont on a aussi lu un témoignage là, parce qu'il y a des gens qui sont mis en quarantaine de manière totalement arbitraire. Et donc le rendez-vous c'est à 16h30 devant le RER A Joinville-le-Pont. C'est le RER A direction Boissy-Saint-Léger. Et voilà, on espère être un maximum à y être. C'est à nouveau à l'appel d'un collectif de sans-papiers. C'est celui de Montreuil et de l'Assemblée contre les centres de rétention en Île-de-France qui se réunit tous les mercredis. Et donc voilà, on espère être un maximum. On pense que c'est important que cette marche, elle continue à aller devant les prisons. Pour sans-papiers, on rappelle qu'en fait, la régularisation sans la fermeture des centres de rétention, ça a juste pas de sens, quoi. Et que c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, c'est pas une régularisation, un nombre de régularisations, mais c'est des papiers pour toutes et la fermeture de ces tôles, quoi. Et le 17 octobre, il y a un autre parloir sauvage qui est prévu à Hendaye, qui est un centre de rétention qui a rouvert l'année dernière et qui a servi de commissariat pendant le G20, donc qui était dans le coin, qui est à Biarritz, si je dis pas de conneries, l'été dernier. Quoi. Voilà, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est juste totalement ouf. On relaye souvent quand il y a des parloirs ou des manifestations à l'intérieur et à l'extérieur. Et en vrai, 10 parloirs sauvages comme ça qui s'enchaînent dans tout un tas de centres de rétention, c'est juste ouf. On espère que ça aura filé un maximum de patates aux prisonniers et prisonnières à l'intérieur, quoi. Et que ça aura pu permettre aussi pas mal de manifestations, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était pour se filer un peu la patate. Je rappelle que du coup, il y a le rendez-vous ce vendredi à 16h30. Du coup, pour celles et ceux qui y seront, vous pourrez écouter la rediff de l'émission après pour mercredi. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui sont dehors. Mais on continuera d'en parler, on continuera de raconter un peu comment ça se passe. Et le lendemain, le 17 octobre, il y a donc la manifestation nationale. Ça se passe, il y a trois rendez-vous à 10h, donc pour celles et ceux qui sont dehors en région parisienne. Il y a un rendez-vous à 10h, porte de Montreuil, 10h, porte de Choisy ou 10h, porte de la Chapelle en fonction de là d'où on vient. Et avec l'idée de converger à République à 14h pour tout le monde, puis de partir ensemble vers l'Élysée, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est ce week-end, c'est le week-end prochain, et on espère qu'il y aura un maximum de monde. Il y aura l'émission du 16, on fera les rappels de toute façon pour les dates, quoi. Et vu que là, on parlait centre de rétention et que la prisonnière, elle racontait un peu ce que c'est la répression sur les tests Covid. Je voulais juste rebondir parce que c'est un truc qui se passe en ce moment de manière hyper intense. Là, on soulevait le truc qui était un peu ouf, c'est-à-dire à la fois une absence de soins totalement, hyper vénère, où en même temps on réprime quand les gens ils essayent d'obtenir des soins d'urgence, quoi, en appelant les pompiers et tout. Et en même temps, il y a une répression qui se met en place sur la question du refus de test. Il y a pas mal de pays, c'est ce qu'elle racontait, qui en fait exigent un test négatif de moins de 72 heures ou de 48 heures pour permettre l'expulsion. Et du coup, c'est devenu un moyen de lutte à l'intérieur. Et c'est un moyen de lutte qui fait pas forcément plaisir, parce qu'en vrai, c'est prendre le risque de pas savoir si on l'a etc., etc., pour éviter les expulsions. Et donc, face à ça, les préfectures, de plus en plus, elles décident de mettre les gens en garde à vue, voire de les poursuivre. Et du coup, on pense que c'est hyper important à visibiliser en ce moment. On continuera de donner un peu des détails sur la manière dont les préfectures, elles sont en train de mettre la pression là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un truc un peu fou, ce truc de test obligatoire. Il y a un peu la même chose en prison, quand tout d'un coup, ils déclarent que la prison, c'est un cluster, quoi. Ils imposent le test à tout le monde ou la quarantaine. Et du coup, voilà, c'est encore jouer avec le corps des gens, quoi. C'est un peu ce que racontait la personne juste avant au téléphone, quoi.
Donc, voilà. Quand tu refuses ces tests-là, tu te fais défoncer. Ouais, c'est ça. Soit en prison ou en centre de rétention.
Ouais, parce que c'est vraiment ça le truc dont tu parles, c'est qu'il y a un vrai acharnement sur des prisonniers. Parce que tu disais, là, il y a des gens, ils en sont à deux, ils font plusieurs gardes à vue, en fait, dès qu'ils refusent le test. Et à peine ils reviennent de la garde à vue, c'est de nouveau, est-ce que tu veux bien faire un test ? Et sous-entendu, si tu veux pas, t'es de nouveau en garde à vue bientôt. Et avec la menace, en vrai, derrière, de se faire condamner, parce qu'ils ont toujours des poursuites possibles pour ça, donc de passer en prison avant de retourner au CRA. Même si là, en ce moment, dans les faits, ils ont tendance à ne pas te laisser longtemps en prison et à te ramener directement au CRA pour réessayer de t'expulser, c'est quand même la menace qui pèse en fait, à chaque fois que tu fais un refus de test, quoi.
Ouais, et en fait, de la même manière qu'en tôle, dans tous les lieux d'enfermement, une fois que tu as été testé positif, en vrai, il n'y a pas tout d'un coup un truc médical qui se met autour de Watt. En fait, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, tu es puni parce que tu es malade. Et du coup, les gens, ils sont en tôle, ils sont isolés encore plus. Et par exemple, au Ménilamlo, la dernière personne qui a été testée positive, elle a été envoyée au mitard pendant son temps de quarantaine. Et du coup, ça veut dire qu'elle avait des conditions d'enfermement qui étaient encore plus vénères que d'habitude, dans un lieu qui ne doit pas être spécialement aéré, quoi, et où les keufs qui passent sont particulièrement vénères, parce qu'on a aussi parlé assez régulièrement au Ménilamlo de comment ils se comportent, quoi. Donc voilà, en fait, il y a aussi cet enjeu-là, quoi, même en dehors de la question de l'expulsion, il y a aussi le fait que si la personne, elle est testée positive, elle sait qu'elle va être en plus, elle va prendre cher en plus, quoi, des possibles symptômes. Et ouais, il y a des gens quand même qui ont pris de la prison pour ces refus de test. On en avait parlé, c'était vraiment une fois à Rennes. On n'a pas du tout un truc exhaustif et on peut pas du tout dire à quel point ça arrivait. Mais c'est sûr que les préfectures, elles tentent, si c'est pas possible d'expulser, il y a grave moyen qu'il y ait des gens qui continuent d'aller en prison pour retourner après en CRA, quoi.
Ouais, c'est un nouveau moyen de pression supplémentaire.
Moi, ça me fait penser à ceux qui veulent pas faire le test ADN, en fait, tu vois. C'est un peu du même acabit. Ils te mettent en prison maintenant parce que tu veux pas aller. C'est quand même aberrant, quoi.
Ouais, et ça fait aussi le lien avec un truc dont on voulait parler, c'est que, comme tu disais, en fait, quand t'es testé positif là en prison, quelle que soit la prison, tu vas pas être pris en charge, tu vas être isolé. Et d'ailleurs, il n'y a pas que toi qui va être isolé, c'est qu'en fait, quand il y a un cas positif dans une prison, tout le monde est privé, tout le monde est puni, tout le monde est privé de parloir. On en a pas mal parlé en CRA, dès qu'il y avait un cas positif, on interdit toutes les visites. Mais là, en fait, c'est exactement ce qui est en train de se repasser dans différentes tôles en Île-de-France. Il me semble à Fresnes et à la Santé, là, cette semaine, on nous a dit, en fait, voilà, il y a des parloirs qui sont. Enfin, il y a des bâtiments, il n'y a plus de parloirs, parce qu'il y a des cas de Covid avérés.
Ouais, c'est exactement ça. Pardon, vas-y.
Non, vas-y.
Non, je veux dire, c'est exactement ça. Et à chaque fois, il n'y a aucune annonce, que ce soit de la part de la presse ou de l'administration pénitentiaire, quoi. Il n'y a aucun proche qui est contacté pour dire, en fait, les parloirs, ils vont sauter, ou c'est quoi l'état de tes proches à l'intérieur, parce que du coup, tu n'as plus le droit au contact. Parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Quand on supprime les parloirs à l'intérieur. Dans les centres de rétention, il y a possibilité de téléphone sans caméra, mais en fait, ça concerne qu'une minorité de personnes. Et en prison, officiellement, il y a le droit à rien, quoi, en dehors de la lettre. Donc,
dans certaines tôles, là, les parloirs sont suspendus jusqu'au 19 octobre. Et j'ai l'impression qu'on part droit dans le mur comme à la première vague et au premier confinement qu'il y a eu, quoi.
Oui, et puis du coup, c'est les matons qui rentrent et qui sortent, et donc c'est eux qui ramènent le virus. Et à côté de ça, ceux qui morflent et ceux qui doivent supporter tout ça, c'est les prisonniers, les prisonnières et les proches. Donc voilà, parce que là, pour parler du cas de Fresnes, donc la première division et la troisième division sont quasiment totalement confinées avec des interdictions de parloir. Là, ils ont ramené, soi-disant, ça y est, ils se mettent à ramener des masques. Donc, ils donnent des masques tous les matins et il faut les jeter tous les soirs.
Alors qu'il faut savoir que le masque, c'est 4 heures, hein, maximum. Voilà,
surtout que, faut voir encore dans quelles conditions et quel type de masque ils peuvent donner. Et pour la deuxième division, qui est la seule, qui n'est pas complètement confinée pour le moment, il y a un gros chantage aussi qui va servir en rappelant aux prisonniers là-bas que si jamais ils ne jouent pas le jeu et qu'ils portent pas suffisamment, ils respectent pas suffisamment les conditions qui leur sont imposées, eux-mêmes peuvent être confinés derrière. Alors que les matons sur place, ils ne respectent pas la règle. Hein, ça, c'est des choses vues et témoignées. Loin de là, tous les matons ne le portent pas, n'ont pas forcément de gants. Et on rappelle que le gel n'est pas distribué en tôle. Donc il y a quand même un gros problème de santé publique là-bas. Et une belle hypocrisie, encore une fois. Donc c'est comment on utilise ces mesures de crise sanitaire pour imposer encore plus de restrictions et de contrôles aux prisonniers, quoi, à l'intérieur.
Ouais, et dans le même temps, il y a une décision, je crois que c'est du tribunal administratif de Toulouse, ou de la cour d'appel, c'est de la cour d'appel, qui dit qu'en fait, le port du masque qui avait été demandé par des avocats de prisonniers là-bas, pour qu'à l'intérieur, ils aient le droit au port du masque, quoi. Donc il y avait une première décision début septembre qui disait qu'effectivement les prisonniers devaient avoir le droit au port du masque en période de pandémie, quoi. Et là il y a eu un appel qui a été fait par Dupond-Moretti, enfin par le ministère de la Justice, et la décision de la cour d'appel, c'est de dire effectivement il n'y a pas besoin de masque à l'intérieur, il suffit juste de dépistages massifs qui seront imposés aux prisonniers parce que c'est pas une contrainte sur le corps de la personne, quoi. Et du coup, enfin, c'est totalement contradictoire avec ce que là ils sont en train de faire au moment où ils annoncent qu'il y a des personnes qui sont malades ou qui seraient malades à Fresnes, quoi. C'est qu'en fait partout ils disent que quand il y a soupçon de coronavirus ou qu'en tout cas on va être à plusieurs dans des lieux peu aérés, le port du masque il est plus que recommandé. Et donc c'est un truc de ouf ce que vient de décider la cour d'appel pour la prison de Toulouse, quoi. Voilà, j'en profite juste pour...
Et tu fais bien de le dire. Qu'est-ce que je veux dire ? On vient de recevoir un texto. Est-ce qu'on peut parler de ce texto-là, Alex, ou pas ?
Attends, avant de parler de ça, juste qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et
ouais,
juste le temps de voir si, avec Alex, hein, si... parce que, non, je sais pas, il y avait des choses juste dont on voulait parler. j'en profite pour... pour en parler, voilà, il y avait deux trucs. Il y avait quand même pas mal de mouvements qu'il y a eu dans les tôles récemment, notamment pour des demandes de transfert. En fait, c'est toujours pareil. On nous présente des actes de violence de personnes à l'intérieur qui, en fait, demandent juste leur transfert depuis hyper longtemps et sont obligés, comme d'hab, de finir par foutre le bordel pour avoir un droit, en fait, qui est censé être un droit, même pour les peu de droits qu'ont les prisonniers. Notamment à Saint-Quentin-Falavier, alors je crois que c'était il y a une semaine, il y a 9 prisonniers qui ont refusé de remonter en cellule après la promenade et 5 qui ont réussi à monter sur le toit. Au final, il y a 40 gendarmes et ASERIS qui ont dû venir pour les déloger. Et il y en a 3 qui ont pris un transfert disciplinaire dans la journée. Juste pour dire, enfin, de nouveau dans la presse, on a dit, ouais, il y a un leader qui a lancé le truc et tout. En fait, bon, on voit bien, il y a 9 personnes qui ont fait un truc ensemble. Ouais, il y a vraiment des actes de solidarité en prison qu'à chaque fois on essaie de montrer comme des trucs individuels de personnes qui essayent de tirer pour eux. Mais voilà, c'est pas du tout le cas. L'autre truc.
Encore une fois, c'est qu'ils ont poussé quelqu'un à bout, qui veulent juste un transfert, et donc qui sont prêts à avoir des transferts disciplinaires pour pouvoir être transférés de la tôle où ils veulent plus être, en fait. Et le rapprochement familial est un droit. Il va falloir à un moment accepter que c'en est un et respecter les droits aux prisonniers qui sont bafoués en permanence comme ceux des centres de rétention et de tout lieu d'enfermement où vous régnez en maître. Voilà. Je voulais quand même spécifier qu'il ne faut pas confondre faiblesse et gentillesse. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne téléphone d'un centre de rétention en pleurs et qu'elle est pas parce qu'elle pleure qu'elle est très affaiblie, bien au contraire. C'est juste un moment de ça fait du bien de parler à des gens. C'est pas quelqu'un qui a baissé les gardes. Je tiens à spécifier que les 3 personnes qui sont enfermées au centre de Ménil ne sont pas suicidaires, qui sont en parfaite forme physique, morale et psychique, hormis cette personne qui est sous cachet actuellement et sous la protection de ces policiers qui sont à Ménil, que nous sommes le vendredi 9 octobre et que assurer leur protection et leur sécurité, c'est le rôle de ces policiers enfermés à Ménil. Voilà. Donc l'info est passée sur les ondes et bien évidemment, s'il faut contacter la presse qui nous suit de très près, nous contacterons la presse.
Ouais, et puis enfin, de toute façon, on est bien en lien avec pas mal de gens à l'intérieur, donc on sait très bien ce qui se passe. Donc de toute façon, on saura ce qui se passe. Comme on peut raconter toutes les saloperies qu'ils font, les saloperies là qu'ils continueront à faire, on continuera à les relayer ici. Juste parce que j'avais pas fini le truc d'avant, en fait. Donc il y a les gens là qui ont pu monter ensemble sur un toit. Il y a des gens, parfois c'est plus compliqué. Genre à Argentan, il y a un prisonnier qui a foutu le feu à sa cellule parce que ça faisait des mois qu'il demandait le rapprochement familial. Et finalement, il a pris 8 mois ferme supplémentaires pour ce feu de cellule. Et de nouveau un transfert. Enfin voilà, c'est vraiment toujours le même truc. Avec en plus derrière le proc qui apparemment a été vraiment dégueulasse, a dit que ce monsieur se complaisait dans une léthargie dans sa détention. Voilà, comme si la détention est... Enfin, vraiment, donc, comme d'hab, genre, oui, monsieur ne fait rien dans sa détention, apparemment, donc du coup, ça va être le reproche qu'on va lui faire. Alors que, bon, voilà, il demandait quand même apparemment un transfert depuis assez longtemps, suffisamment pour foutre le feu à sa cellule, prendre le risque de mourir, parce qu'on sait très bien ce qui arrive aussi quand on fout le feu à sa cellule pour demander quelque chose qu'on n'obtient pas, voilà, les risques qu'on prend. Donc voilà, et pour dire que ça bouge pas mal en ce moment en prison, et toujours pour ces histoires de transfert qui n'arrivent pas, quoi.
Et je tiens aussi à souligner par rapport à cet appel que nous avons eu, on va se passer la balle Arthur, que quand on téléphone aux pompiers, il y a une trace téléphonique et l'adresse dans laquelle on est situé, c'est directement et automatiquement envoyé à leur standard. Donc il y a des preuves que cette femme est malade, il y a des preuves que les pompiers sont venus, il y a des preuves par rapport aux bornes téléphoniques et donc effectivement s'il faut engager des procédures, il y aura avec bien évidemment plein d'avocats qui nous soutiennent. Voilà. Et qui en plus nous aident avec leur cœur et en prenant l'aide juridictionnelle. C'est pas cool ça ? C'est pas cool. Donc nous aussi nous avons la loi de nos côtés. Merci bien.
Voilà. Voilà, et puis cette question du droit au transfert qui est bafoué en permanence, il n'est pas nouveau. Il est aussi là pour faire craquer les prisonniers et les prisonnières et pour les amener à bout pour qu'ils en viennent à eux-mêmes se retrouver encore plus en difficulté. Donc on pourra ici citer par exemple l'exemple de Fabrice Borromée, hein, qui réclame depuis des années et des années son transfert en Guadeloupe parce qu'il est d'origine guadeloupéenne, et qui, à chaque fois qu'il a dû utiliser des techniques un petit peu plus radicales pour exiger ses transferts, se voit sa peine rallongée et ses conditions de détention encore plus compliquées, notamment en allant à l'isolement. Et ça, c'est des techniques de l'administration pénitentiaire en France. Donc ça, c'est des choses qu'il faut condamner fermement et qu'on essaye de relayer ici parce que c'est plus possible, quoi.
C'est clair. On a une rediffusion mercredi matin 9h30. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Pour vous abonner au journal, c'est à la même adresse. On fait un coucou, en tout cas perso, à tous les prisonniers et prisonnières de France. Et d'ailleurs, si autour de la table, il y a quelqu'un qui a des coucous à faire, c'est maintenant et vite.
Un gros coucou à notre poteau Afren. Juste aussi un message de Serge pour Serge qui s'excuse de ne pas avoir pu décrocher le téléphone aujourd'hui. Donc j'ai pas la fin du message, voilà, il s'excuse, il a vu l'appel, il a pas pu répondre, et je sais que là il a des petits problèmes de réseau. Donc ouais, il y a d'autres choses dont on n'a pas pu vous parler, notamment des gens qui sont allés perturber la réunion publique pour la construction d'une nouvelle prison à Tremblay, donc on en parlera la semaine prochaine.
Ok.
Moi je voulais faire un gros coucou aussi aux copains à Fleury et à Fren, beaucoup de force à vous, et aussi beaucoup de force aux proches de prisonniers et de prisonnières qui galèrent d'autant plus dans cette période funeste.
Force, courage et détermination à tous et à toutes. À la semaine prochaine. Salut.
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 immobile pendant que la terre tourne et que le Très-Haut nous contemple tous. Squatter les dépôts pour les mêmes causes immobiles, menottes argentées sur peau d'or, que la Bagdad sans pudeur. Inégalité pour mot d'ordre, s'il y a rien dessus, j'perds mon temps à me dire que j'finirai bien par leur tirer dessus. Mater les murs de Boulogne et d'ici, voir le matin remplacer l'aube et ainsi de suite. J'perds mon temps à écouter que ça insiste. Lunatique, dont la violence incite. Trop de jeunes s'en battent que le monde leur appartient. Continue de ronfler quand le soleil atteint le zénith. Vrai, chaque minute est précieuse, on en dépense à trop rêver. Combat sans trêve pour accéder à ce qui nous est permis. Des heures endormies sur des feuilles blanches. Mais lunatique, à tout moment se déclenche ton freestyle avalanche. Des instants gâchés à perdre ses illusions. Du sang et des proches, sa raison et puis le contrôle. J'perds mon temps comme un assassin en cavale vivant caché. Comme un innocent en tôle. Comme un dealer à qui personne n'a acheté. Comme un gars dans un hôtel sale qui parle d'amour à un tabac qui ne vit que pour sa gueule. J'perds mon temps comme ceux qui attendent la paix au Moyen-Orient. Salam et shalom, la même, mais prononcé en décalage. Ça devient Uzi opposé à Kalash. Israël. Donne respect à ton aîné Ismaïl.
Les menottes me serrent et les minutes me tuent. Je vois trop de thunes alors je me sers. On parle peu, j'ai l'air troublé devant leur toubi. Mais le silence n'est pas un oubli. J'inspire le temps, les yeux plissés. Je rappe et je dérape souvent tant pis si le sang doit pisser. Le style bête, c'est bête et méchant. Trop de temps à lutter, à essayer d'être riche en triche. J'perds mon temps loin des miens, déchiré au sang, vrai indien. Taxique aussi, j'paye avec mes Air Maxé. J'ai le foire quand j'mens, pourtant j'dis bismillah quand j'mange. Veux que j'te dise franchement, j'ai un ange à chaque épaule. Mais sud gauche parle trop fort. Écoutez le droit, ce que je suis censé faire. Mon temps avec des petites snakes, noyer les chèques dans du sky sec. À goûter les variétés de shit, rien que du mauvais. S'ils savaient ce que j'avais, s'ils pouvaient me dire quelle maladie j'ai. C'est dans mes gènes ou quoi? Je crois que je cherche, tu rêves ou quoi? Je perds mon temps jusqu'à ce que je perde mon teint. Je perds mon temps sans métier, tête baissée à regarder mes pieds. Arrive expès et à regretter. Je nique mon temps dans le vice, je veux pas finir dans le feu. J'ai du mal ce que je t'explique dans le disque. Je perds mon temps à acheter à vendre, emprunter à rentre. A rien à prendre sauf que les ports sont à pente. Le monde fait flipper, mec tu sais plus rien matin. Et plus je connais les hommes, plus j'aime mon sien. Je perds mon temps à...